Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chères auditrices et auditeurs, et surtout chères lectrices et chers lecteurs, bonjour et on vous souhaite une bonne rentrée. Alors, si vous êtes amateur de livres, eh bien, vous avez passé une période que certains trouvaient difficile, mais qui pour d'autres ont été certaines formes de bonheur de pouvoir se dire « Ah bah tiens, les livres que j'avais sur ma bibliothèque, dans ma bibliothèque, sur un coin de table, que ça fait des années, des mois, voire des années, je dis « Ah, il faudrait que je lise. » Eh bah ça y est, on a trouvé le temps de faire baisser la pile des livres à lire. Alors, nous allons parler un petit peu de ça. Ça va être notre bazar post-confinement, bazar littéraire post-confinement. Il y aura au moins une émission parce qu'on a eu le temps de lire beaucoup de choses. Alors, nous avons eu le temps de lire beaucoup de choses. Je dis bien nous, car je ne suis pas tout seul. On m'a accompagné Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, Hélène Honora, vous connaissez, qui fait partie de l'association Les Collecteurs, hein, qui vous propose cette émission, mais qui est aussi, on peut dire autrice maintenant. Je vois que le terme est, qui a suscité beaucoup de réticences passe de plus en plus dans la langue courante.
Tu as le choix, tu peux dire ce que tu veux.
Autrice. Je peux dire ce que je veux, c'est formidable la liberté. Alors, plusieurs livres dont on va vous parler. Nous avons découvert des nouveautés, des anciennetés, alors il faudrait dire, on ne va pas dire des vieilleries,
des antiquités.
Ce serait vache. Mais des livres plus anciens, voilà. Enfin, plus anciens à l'échelle de la mode, mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ils sont très très récents. Alors, on va commencer avec quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. C'est, Hélène, tu vas nous parler d'un essai, et d'un essai presque prémonitoire.
Absolument. Le livre de Mona Chollet, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un essai donc, qui s'intitule « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». Donc ça pourrait être 2021, l'Odyssée de l'espace domestique, et ça pourrait être une énième analyse du confinement que nous avons subi récemment. En réalité, le livre est sorti en 2015 aux éditions de La Découverte, donc bien avant la pandémie et le confinement. Alors Mona Chollet se penche dans « Chez soi » sur nos conditions matérielles d'existence. Alors, la sédentarité a mauvaise réputation. À notre époque, dans ma génération, quand nous étions gamins, on nous disait « ne reste pas enfermé à lire, sors, va jouer dehors, il y a du soleil, etc. » Maintenant, ce serait plutôt « ne reste pas collé à ton écran, va jouer, va faire du sport pour les gamins ». Or, Mona Chollet dit « moi, c'est pire parce que je suis journaliste ». Et donc, une journaliste casanière, c'est un oxymore très embarrassant.
Précisons, elle est journaliste au monde diplomatique. Hein.
Voilà. Donc, elle dit « je suis à peu près aussi crédible qu'une charcutière végétarienne ». Et il est mal vu, n'oublions pas que son livre a été écrit bien avant le confinement, il est mal vu de rester chez soi et d'aimer rester chez soi à l'heure actuelle. Alors, j'ai une petite citation là qui le dit très bien, donc dans le premier chapitre de son essai. « Vouloir rester chez soi, s'y trouver bien, c'est dire aux autres que certains jours seulement, on préfère se passer de leur compagnie. Et cela pour se consacrer à des occupations, ou pire, à des absences d'occupations qui leur paraîtront incroyablement vaniteuses ou inconsistantes. Qui oserait refuser une invitation en expliquant en toute simplicité qu'il est mieux chez lui ? On le jugera capricieux, snob, égoïste. On l'accusera de jouer les divas. On se demandera pour qui il se prend. Mieux vaut trouver une excuse plus solide. On a du travail, on est un peu malade. Donc, mieux vaut pouvoir se justifier si l'on aime à rester chez soi. Et inversement, dans l'imaginaire populaire, le créatif ou le créateur est quelqu'un qui, lui, doit rester enchaîné à sa table de travail ou à sa table à dessin ou à son atelier, comme Mozart à son clavecin. Et donc, Mona Chollet dit « Ces gens-là, quelquefois, aimeraient bien s'émanciper, mais on les regarde de travers. Et puis, il y a ceux qui aimeraient bien rester chez eux et on les regarde de travers aussi. » Bref, dit-elle, qu'il s'agisse de vous traîner dehors ou de vous enfermer à double tour, vos semblables trouveront toujours le moyen de vous empêcher de vivre. Alors, vos semblables, de toute façon, ils sont chez vous. Parce que Mona Chollet parle d'une foule dans son salon. Avec Internet et les réseaux sociaux, on n'est plus jamais seul. Elle a découvert les réseaux sociaux, elle les trouve miraculeux. Mais en même temps, elle dit elle-même, elle cite un auteur qui parle de son pre-internet brain, de son cerveau d'avant Internet, et qui regrette son cerveau d'avant Internet. Et elle dit elle-même qu'elle elle a aussi la nostalgie de son intégrité mentale et physique quand elle était petite, enfermée à la maison, ou adolescente sur le canapé où elle lisait.
C'est vrai, quand tu dis ça, ça me fait penser, il y a quelques années, quand on voulait s'isoler, ben, on allait vivre dans un coin perdu dans la campagne, c'était le comble de l'isolement. Aujourd'hui, non, c'est pas ça qui est important, c'est de couper les connexions.
Exactement.
On représente, j'ai pris des vraies vacances, j'avais pas de réseau de téléphone et pas d'Internet.
Exactement.
Et on peut faire ça en ville, à la limite.
Oui, mais il faut en avoir la volonté, la possibilité, de par ses obligations, qu'on exagère parfois, et la volonté. Donc, elle en est bien consciente. Alors, elle nous présente les deux bouts de la chaîne. L'homme de demain ou d'après-demain, mais je pense que c'est demain, assis sur un fauteuil ergonomique avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, devant son écran, son clavier ou son ordinateur, il n'y aura plus de clavier, avec des toilettes directement sous le siège ergonomique et une perfusion dans le bras pour le nourrir. Et puis l'autre extrême, peut-être pas plus enviable, c'est le SDF, qui ne sait même pas, dont l'un des soucis est de savoir où il va pouvoir uriner, parce que soit c'est payant, soit c'est illégal, comme aux États-Unis. Donc, on a le choix entre ces deux extrêmes. Alors ensuite, elle réfléchit au fait que pour habiter, il faut de l'espace et il faut du temps. J'ai trouvé ce chapitre peut-être un peu victimaire. C'est-à-dire, nous sommes tous victimes de nos contraintes professionnelles, esclaves du travail, ligotés par nos horaires, etc. Bon, certes, moi je me trouve très bien chez moi avec une pile de bouquins et une boîte de chocolat. Mais le confinement a montré depuis, il me semble que peut-être que tout le monde n'aspire pas à l'osium à perpétuité. L'osium, qui pour les Romains était le neg osium, était le contraire de l'osium. Donc le négocium, le travail, le négoce, l'activité, et l'osium, le loisir. Mais là encore, pour les Romains, c'était une idée de loisir civique et créatif.
On traduit des fois par oisiveté, mais c'est une mauvaise traduction parce qu'il y a une connotation très péjorative à oisiveté qu'il n'y avait pas du tout à la question de l'osium chez les Romains.
Absolument. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde aspire au négocium à perpétuité.
À faire des affaires en permanence.
Alors, ni au négocium, ni à l'osium. Et elle m'a paru un peu, peut-être un peu manichéenne sur ce sujet. Mais elle réintroduit effectivement une notion qui va avec l'ossium ou le minimum vital et le minimum de loisirs, c'est le salaire garanti, dont on a beaucoup parlé, qui est appliqué de façon expérimentale ici ou là, mais dont elle considère que ce pourrait être une solution pour permettre à ceux qui le souhaiteraient d'avoir un minimum de revenus et peut-être un minimum d'activité.
Une idée qui a beaucoup de mal à passer dans nos cultures occidentales. J'ai le souvenir qu'un candidat à la présidence, Benoît Hamon, avait construit une partie de son programme sur ça.
Oui.
Ça a plutôt amené des sourires en coin et voire des moqueries féroces de la part des autres hommes politiques français.
Oui, et pourtant, parce qu'on a l'impression, on considère qu'avec ça, on pourrait vivre sans rien faire. Mais c'est faux, parce que de mémoire, un salaire minimum, ça tournait autour de 400 ou 500 euros par mois. Or, j'entendais ce matin que en France, le seuil de pauvreté, c'est 1063 euros pour une personne seule. Donc ça prouve bien que même le salaire garanti n'empêcherait pas de vouloir compléter et travailler. Mais comme tu le dis, Marc, c'est une notion qui a du mal à passer, mais qui est intéressante. Elle l'évoque. Alors, en matière d'espace aussi, l'un des problèmes, c'est que quand on a un espace, il faut l'entretenir. Et que, évidemment, un de ces chapitres, le cinquième, s'intitule « Métamorphose de la boniche, la patate chaude du ménage ». Et ça lui donne l'occasion, là, d'évoquer un autre salaire, le salaire ménager, dont on a beaucoup parlé aussi, et qui pourrait être affecté aux gens qui n'ont pas une activité extérieure. Voilà. Et puis, pour habiter, mais habiter avec qui ? Elle réfléchit aussi à la fabrique de la famille dans l'imaginaire et dans la publicité. En tout cas, et à l'architecture, bien sûr, à la maison idéale, le livre ouvre beaucoup de pistes de réflexion dans tous ces domaines.
Voilà, donc comment penser un peu à ce chez-soi, hein, ce chez-soi si important. Alors moi, ça me fait penser à d'autres livres qui ont été écrits sur ça. Quand on parle d'espace domestique, bien sûr, Georges Perec et son espèce d'espace, qui est bourré d'ironie et qui est une façon de revisiter notre vie quotidienne. Puis tu parlais de ceux qui n'ont pas d'espace, tu parlais des SDF. J'ai envie de dire, lisez par exemple de Clercq, les naufragés, qui étaient parus en collection, la collection de plomb, d'ethnologie. Dont le titre, mais l'intitulé de la collection m'échappe là tout de suite, et qui raconte bien ça, quoi.
Oui, et Perec...
Comment faire ses besoins quand on vit à la rue, c'est très compliqué.
Voilà, et Perec que tu cites, il a beaucoup réfléchi là-dessus, parce qu'il y a l'espèce d'espace que tu citais, il y a les choses, il y a un homme qui dort, il y a la vie mode d'emploi, et tout ça tourne autour de notre cadre matériel et donc spirituel d'existence.
Alors, moi, du coup, ça me... Merci en tout cas pour ce livre de Mona Chollet. Alors, on rappelle le titre et l'éditeur, rapidement.
Chez soi.
Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Et c'est aux éditions
de
La Découverte.
2015.
Voilà. Et eh bien, moi, je vais vous parler d'autre chose. Il y a un lien. Notre association a aussi un club de lecture, enfin des rencontres de lecteurs où on croise nos lectures. Et puis, on s'est donné comme objectif pour une prochaine... de nos rencontres, de croiser des lectures sur un livre qui est d'une certaine façon lié, pas sans rapport avec celui-là, qui est un classique de la science-fiction. La science-fiction, c'est un peu un genre méprisé, un sous-genre dans la littérature, et pourtant, il y a des chefs-d'œuvre. C'est Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Alors, si vous ne l'avez pas lu, vous avez peut-être vu le film de François Truffaut, qui date de 66, alors que le roman, lui, date de 53, pour sa version originale, et puis 55 pour la traduction française. Mais voilà, il y a plein de choses à découvrir. Il y a notamment cette question du quotidien. Alors, moi, pour travailler ça, ça m'a donné envie de me replonger dans un autre texte de Ray Bradbury, qui sont les chroniques martiennes. Alors, peut-être certains ont même eu ça à l'école, les chroniques martiennes. Donc, je ne vais pas C'est pas un livre inconnu dont je vais parler, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chroniques martiennes? Ray Bradbury, ce sont... Alors, c'est sorti en 1950 aux États-Unis. Voilà, première chose qu'on peut dire. Ça, c'est sûr. Et en même temps, est-ce que c'est un roman? Est-ce que ce sont des nouvelles? Ouais, on est quelque part entre les deux. Parce que ce sont des nouvelles qu'il a publiées entre 1945 et 1950, qu'il a rassemblées, et puis il a rajouté des textes, et ça fait un espèce de roman sous forme de succession de nouvelles. Hein, il y a des personnages qu'on retrouve d'un texte à l'autre. Donc on est dans une forme un peu atypique, entre roman et nouvelle. Ça, c'est un peu comme Jérôme Cabré a aussi écrit des recueils de nouvelles où, petit à petit, dans l'écriture, toutes les nouvelles se lient entre elles, c'est la même chose. Et il invente quelque chose qui est devenu d'actualité, la conquête martienne. Hein, oui. Les hommes débarquent sur Mars, d'où ce titre, Chronique martienne. Alors, à l'époque où il avait sorti, il avait situé toutes ces chroniques, ça se passait entre 1999 et 2026. Évidemment, il l'a écrit en 1950. Alors, dans une réédition qui a eu lieu plus tard, en 97, je crois, peu importe, là, il y a eu une réédition, ça a commencé en 2030 pour se finir en 2080 ou quelque chose. Voilà.
On a décalé les dates.
Il a décalé les dates, mais pas les textes sont restés les mêmes. Alors, c'est plein de choses et qui viennent... Il y a de l'humour, parfois, et puis il y a des choses très dramatiques. Parce que dans ces chroniques martiennes, on voit les premières expéditions qui arrivent sur Mars, les premières fusées arrivent sur Mars. Il faut se rappeler, je disais 1950, ça a été écrit entre 45 et 50, donc la science-fiction commence à se développer de façon importante, ça va être un des auteurs fondateurs du genre, mais c'est aussi, on est juste après Hiroshima et Nagasaki, hein, c'est la peur très importante d'une guerre nucléaire. Donc il y a tout cet arrière-plan, hein, cette rêverie des voyages intergalactiques, de la découverte de nouveaux mondes, et puis d'un monde terrien, on va dire comme ça, très 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 menacé. Et on va voir toutes les menaces qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on va voir les expéditions qui vont se suivre, et qui vont atterrir, alors avec beaucoup d'humour, parce que la première expédition qui va arriver, la première fusée qui va atterrir, les Martiens, ils ont une chose, c'est qu'ils sont télépathes, pour chez Ray Bradbury. Donc, c'est un couple, et puis madame entend des chansons, il y a des chansons qui lui viennent, elle ne les connaît pas. En fait, elle est déjà en communication avec les astronautes en train de se rapprocher de Mars.
La transmission.
Et son mari, ça ne lui plaît pas du tout. Et quand il comprend que la fusée est en train d'atterrir, il va aller les accueillir et il va les abattre. Voilà, première expédition, c'est comme ça. Puis il y a une autre expédition qui va arriver. Et ils vont atterrir près d'une ville, ils sont tout contents, et puis ils vont voir une maison, il y a quelqu'un qui est là, qui dit « on vient de la Terre ». Ah oui, non mais les Martiens ont autre chose à faire, quoi. Ils n'ont rien à cirer, si on peut dire. Et puis allez voir monsieur un tel qui est là-bas, ça le concerne. Et puis allez voir un autre. Bon, et comme ça, et pour finir, enfin, on les emmène à un endroit où là, tout d'un coup, des littériens, ils sont accueillis avec un grand succès, sauf que le capitaine réalise qu'en fait, on les prend simplement pour des fous sur Mars, et qu'ils sont dans un asile de fous, et qu'ils sont incurables, tellement incurables, que le médecin a un droit d'euthanasie, et donc il les élimine. Et voilà, on a des choses comme ça, assez drôles. Puis on a des choses un peu plus dramatiques. C'est que la quatrième expédition qui va arriver, il n'y aura plus personne. Et ils vont réaliser que tous les Martiens, tous les habitants de la planète Mars, sont décédés d'une épidémie de varicelle. Voilà. Donc ça rappelle ce qui s'est passé avec les conquistadors. Et puis, bien sûr, la Terre va être... Il y a une guerre atomique qui va continuer à exister sur la Terre. Et pour finir, il n'y aura même plus les derniers Martiens qui vont rester. Ce sera des familles humaines, terriennes, qui ont réussi à échapper à la catastrophe nucléaire et sont venues se réfugier sur Mars.
Les colons.
Voilà. Et alors, il y a plein, voilà, il y a un tas de choses comme ça. Effectivement, on a déjà des courants d'écologie. Puis pour les amateurs de l'œuvre de Bradbury, on a aussi des choses déjà qui annoncent Fahrenheit 451. On a déjà cette thématique, notamment d'un contrôle sur la culture, et surtout, bon, qu'on peut renvoyer aussi à Orwell 1984, qui était paru quelques années auparavant, et puis aux autodafés de livres, qui seront développés dans Fahrenheit 451. Voilà, donc un livre à redécouvrir, hein, en français ou en anglais. Hein, alors, si vous voulez le lire en version originale, bon, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même du vocabulaire un peu travaillé, donc il faudra peut-être un dictionnaire à proximité, mais c'est faisable. Il n'y a pas besoin d'un niveau faramineux d'anglais. J'y suis arrivé, donc j'ai pas un niveau aussi extraordinaire que ça. Voilà, Chronique martienne de Ray Bradbury. C'était publié chez De Noël en présence du futur. Ça avait été le premier volume de cette prestigieuse collection de science-fiction dans l'édition française. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être en folio science-fiction, quelque chose comme ça. Ray Bradbury, Chronique martienne, un texte à redécouvrir. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, on aura plein d'autres livres à parler, mais je te propose, Hélène, de nous parler d'un autre ouvrage, et si tu es rapide, je pourrais parler aussi encore d'un autre.
Bon, alors on va essayer. Alors, une autre chose que j'ai lue, qui est diamétralement différente, c'est Pauline Delabroix à l'art, ça raconte Sarah. Alors, ça raconte Sarah, c'est sorti également il y a quelque temps. Je ne l'avais pas lu. J'ai été absolument éblouie par ce roman, et à la fois par le style, par la construction, par le fond. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse d'une autre. Et puis, bien sûr, les histoires d'amour, quel que soit le sexe, ça finit mal en général. Et je trouve qu'elle renouvelle vraiment le vocabulaire amoureux. Je vous lis un petit extrait. Donc là, c'est la narratrice qui parle de l'autre jeune femme qui est violoniste classique, dans un quatuor classique. Elle, un taxi. Elle me caresse la cuisse à l'arrière de la voiture. Elle a les yeux brillants. Elle monte derrière moi les deux étages qui mènent à mon appartement, si proche de moi que je sens son souffle sur mes mollets. Elle entre chez moi. Elle se sert un verre d'eau. Elle se démaquille à côté de moi dans la salle de bain exiguë. Le miroir montre nos deux visages, surpris et sérieux à la fois, terriblement sérieux. Elle se glisse sous la couette à côté de moi, dans la lumière tremblotante du jour qui se lève. Elle murmure qu'elle n'a jamais fait l'amour avec une femme. Elle demande « Et toi ?» Je dis que moi non plus. Pareil, exactement pareil. Elle caresse mon visage, mon cou, mes seins. Alors, un peu plus loin, ce sont de petits chapitres, voire même de petits paragraphes, voire même, alors qu'ils sont simplement numérotés. Donc le numéro 22, c'est simplement « L'amour avec une femme, deux points, une tempête ». Voilà. Et puis on passe au 23.
On peut dire que c'est un chapitre concis.
Voilà, voilà. Mais signifiant. Et le livre se divise en deux parties, donc une partie avec la montée de cette passion et une partie avec évidemment son déclin et son naufrage. Et la deuxième partie se passe à Trieste, en Italie, et c'est beaucoup plus original que Venise, Florence ou Capri.
C'est une ville moins réputée pour le tourisme.
Et donc j'ai trouvé ce roman très bien écrit et déchirant, et ça s'appelle « Ça raconte Sarah ».
Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix à l'art, et c'est aux éditions de Minuit. Allez, ben moi j'ai le temps de vous parler d'un dernier titre, ou plutôt d'un éditeur qu'on invitera dans ce studio, qu'on rencontrera. C'est un éditeur qui s'est lancé dans la littérature grecque. Alors, on avait interviewé l'année dernière Michel Volkovitch et lancé la maison d'édition le Miel des Anges, consacré exclusivement à la poésie et aux nouvelles grecques. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a été encouragé par Michel Volkovitch à se lancer dans la même aventure. Simone Taillefer, qui s'est mis ça à sa retraite, tout d'un coup, elle s'est mise à la découvert la richesse de la littérature grecque. Et elle est installée à Prades-le-Lez, donc c'est vraiment des voisins pour
dans
nous.
Le coin.
C'est une jeune maison d'édition, il y a 9 titres parus aujourd'hui. Hein, donc on en parlera plus longuement avec elle. Je vais juste évoquer très rapidement 2 titres. Un premier qui a été le premier de la collection et qui est un peu, un peu l'étendard de l'éditeur, Femme de Grèce, qui est un recueil de nouvelles de Galatée Kazantzaki. Alors Kazantzaki, peut-être à certains de nos auditeurs, ça dira quelque chose, mais pas avec ce prénom-là. C'était Nikos Kazantzaki, hein, l'auteur de Zorba le Grec, de La Lettre aux Gréco, de La Liberté ou la Mort. Voilà, donc c'est souvent le seul auteur grec que l'on connaisse, quand sauf si on s'y intéresse particulièrement. Et Galatée était sa première épouse.
Et là, c'est Femme de Grèce au pluriel.
Femme de Grèce au pluriel, absolument. C'est pas, tu fais bien de le préciser, tu as bien vu la couverture. Et ben, on a des courts récits qui nous racontent le destin de ces femmes grecques, souvent paysannes. Destin souvent terrible, parce que ça a été écrit dans la période autour de la Deuxième Guerre, ou avant même. Des femmes sacrifiées à leur mari, des femmes qui sacrifient leur fille à la réputation de la famille, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi un peu d'espoir, hein, parfois. Il y a aussi des lutteuses, on va dire, hein, qui vont réussir à faire progresser un peu la condition de la femme en Grèce. Mais on s'imagine bien, on le voit bien, la Grèce des années 50 et avant, la condition des femmes était vraiment pas facile. Elle n'est pas forcément facile aujourd'hui, soit dit entre parenthèses. Mais là, c'était, comme dirait l'autre, encore plus pire. Et puis, alors là, vraiment très très rapidement, la collection est plein de choses diverses. Il y a aussi un polar qui s'appelle Main basse sur Athènes, qui est un premier roman d'un auteur qui s'appelle Kostas Fasoulopoulos. Vous aurez les détails sur le site de la radio. Vous allez à l'émission Lecture Partout et vous aurez les références. Qui a un polar intéressant parce qu'il montre la logique de gentrification à Athènes. La gentrification, c'est des opérations de spéculation qui rachètent des terrains, des immeubles à des pauvres, les chassent dehors et revendent pour beaucoup plus d'argent à des riches. Voilà, donc ça existe en Grèce, ça existe ailleurs. Oui. Et là, c'est très, très contemporain, par contre. Voilà, c'est les éditions Monem Vassia. Vous aurez les références, ce sont à Prades-le-Lez. Allez voir leur site, il y a 9 titres. Vous pouvez commander directement sur le site. Et ça se trouve dans quelques librairies montpelliéraines que nous connaissons bien, que nous aimons bien. La Géosphère, l'Opuscule et Fier de l'être. Voilà, on vous souhaite plein de lectures. On vous parlera encore de nos lectures et nos découvertes. Merci le confinement, voilà, en tout cas pour cet aspect-là. Pour le reste, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, au moins, ça nous aura permis de réduire nos piles de livres à lire. Alors, on espère que c'est la même chose pour vous. Si vous avez des choses dont vous voulez nous faire part, sur le site de l'émission, enfin sur le site de la radio, la page de l'émission, vous trouverez un mail et vous pouvez nous envoyer des messages. Tiens, moi j'aimerais parler ici, j'aimerais parler ça. Mais pourquoi pas, c'est possible. Allez, merci Hélène.
Merci Marc, à bientôt.
Bonne lecture à tous et merci à Bruno à la technique.
Merci Bruno.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.